Voilà. Bon, on a plein de choses à se dire, je pense.
Ouais.
On a eu un petit contretemps il y a quelques semaines. On devait recevoir Françoise Vergès pour faire une émission consacrée à Aimé Césaire. Elle n'est pas venue, c'est remis au 9 décembre. Oh, corrigez-moi, oh là là. Si, ça va être le 9 décembre, voilà. Ça vous inspire, Aimé Césaire, vite fait ? Personne ?
Oui, un peu.
Bien entendu.
Ouais, magnifique, je ne sais pas si vous l'avez relu. Oui. Non, personne, texte politique.
Moi, j'ai pas lu spécialement.
Texte politique sur le colonialisme, mais complètement d'actualité. Il a été très, très, très loin dans la démarche. C'est en 1950, et il se permet alors il est déjà député, il se permet de comparer le bourgeois européen à Hitler, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire, il y avait une arête au niveau de la société, au creux du gosier.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà. Donc, on reçoit Daniel Zive, on reçoit Éric Tessier. Vous avez un point commun que j'ai découvert il y a deux minutes. Avec
lequel?
Un troisième personnage, c'est Jacques Lacan. Ah. Tout le monde a traité d'Antigone. Hein, dans Pauline Ultime, tu parles d'Antigone.
Oui, tout à fait.
Jacques Lacan parle d'Antigone, et Antigone, bien sûr.
Et Jacques Lacan, dont je suivais quelques cours du temps de la fac de Vincennes, j'écris un roman policier, et en fait, il y a une phrase avant le roman policier de Lacan. Si on comprend la phrase, on a compris tout le roman policier.
D'accord.
Ah.
Et c'est pour ça qu'il y a une petite dédicace dans votre livre, là, ou non? Ou c'est quelque chose qui vous poursuit, Jacques Lacan?
Lacan ne me poursuit pas, mais c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est en plus un personnage qui avait un humour absolument considérable. Et qui était brillant, parfois difficile à suivre, difficile à comprendre, bien sûr, mais remarquable. Mais il ne cherchait pas à être compris. Même lorsqu'il donnait ses cours.
Le paradoxe, c'est que pour un psychanalyste qui doit théoriquement éclairer l'âme humaine, il dit très très clairement qu'il veut s'inspirer de Mallarmé. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le départ. Alors, la maison d'édition date depuis quand, Daniel ?
Alors, Z4 Édition a été créée il y a 3 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. C'est une maison d'édition, en fait, je voulais avant tout publier les auteurs qui étaient dans des pays censurés, là où ils ne pouvaient pas s'exprimer, en me disant, maintenant avec Internet, ils peuvent publier dans toutes les langues qu'ils veulent, dans ma maison d'édition. Ça n'a pas véritablement fonctionné, parce que c'est toujours dangereux, même quand on est dans un de ces pays et qu'on publie dans un autre pays, c'est quand même très dangereux. Donc on s'est plus tourné, en fait, ensuite vers la mémoire d'une manière générale. Évidemment, d'autres livres sont arrivés et voilà, comme ils étaient merveilleux, on était obligé de les publier.
Ce n'est pas que je tienne tellement au livre d'Éric Tessier et Laetitia qui vient de paraître.
Je suis très déçu, tu n'as pas dit que j'étais le plus mauvais écrivain.
Ça va venir. Ça va être progressif.
Ah d'accord, pardon.
J'annonce ça.
Je vous laisse le climax.
Des gens, j'ai été quand même, comme j'ai bon cœur, j'ai quand même conseillé ce livre à des gens. Où peut-on le trouver ?
Alors,
Comment le trouve-t-on, pour
le trouver, le plus simple, c'est évidemment d'aller sur le site de Z4 Édition. Sinon, je dirais presque malheureusement, évidemment, Amazon. Mais on n'aime pas vraiment vendre sur Amazon. Et sinon, bien entendu, tous les libraires peuvent se le procurer. On a beaucoup de libraires qui nous demandent des livres. Et à partir de là, on peut le commander chez son libraire.
Il faut le commander chez le libraire. Il n'y a pas de diffuseur, c'est ça que je voulais dire.
Non, il n'y a pas de diffuseur.
C'est ça.
Hein? Non, pour limiter les coûts, en fait, on essaye de... Z4 Édition est une association, c'est-à-dire on n'est absolument pas à but lucratif. Donc on essaye de publier les livres au meilleur prix possible, avec le minimum de frais. Cela étant dit, évidemment, lorsque c'est un libraire, il y a la commission du libraire qui est classique, les frais de port offerts, etc., etc. On est heureux de vendre au libraire, ça c'est clair.
Donc, Éric Tessier...
Il y a Publico aussi.
Il est disponible à Publico.
On va toucher Publico. Il y a depuis quand? Attention, ne m'mentez pas, Éric Tessier. Hein. Oh. Nous avons quelques rapports depuis très longtemps.
Je ne veux pas,
à l'issue de cette émission. Il y a 15 jours, c'est bien.
À peu près, il y a 15 jours.
Parce que j'ai envoyé quelqu'un il y a plus longtemps, il n'a pas trouvé.
Ah. Oui, c'est vrai.
Donc, si j'ai bien compris, je croyais que vous aviez atteint le pire avec l'extase du prédateur. Publié en quelle année?
Oh là, le Prédateur, 2005.
2005, c'était aux éditions de...
C'était la Nef des Fous.
C'était la Nef des Fous.
Ouais.
Et après, je me suis aperçu que je m'étais trompé avec Pauline Ultime, parce qu'il y avait déjà un stade au niveau du pire qui avait été passé.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà. Et puis
ça
là,
a été plus loin, oui.
Et là, il y a un grand écart. Je ne dis pas que ça s'est amélioré, hein, pas du tout, mais il y a un grand écart. On n'est plus dans la même matière, hein.
Non, c'est vrai.
On n'est plus dans la même matière. Avant qu'on va... Pour commencer l'émission, j'ai choisi une petite chanson pour Daniel. Franchement, si vous ne l'identifiez pas, vous sortez du studio de Radio Liberté tous.
Bon, ben, à bientôt.
D'accord. Au revoir Daniel.
J'étais très heureux de vous rencontrer.
Je ne sais pas si on va revenir, on va écouter ça. Je veux dire qu'on a eu une conversation téléphonique il y a quelques années, mais comme vous n'avez pas de mémoire, ce n'est pas grave, mon cher Eric Tessier. Oui. Je vous dis que l'Extase du Prédateur est un livre de débauché. Je vous avais dit à l'époque,
ça ouais, c'est vrai.
Un livre de débauché. Et je vous ai dit que généralement, les débauchés, très souvent, en vieillissant, s'intéressent aux tailles leurs rosiers, s'intéressent à leur jardin et à la nature.
C'est vrai, tu m'en avais parlé.
Je m'avais dit ça, oui.
Je m'en souviens. Voilà.
Et je vous avais ajouté en mezza voce, j'ai dit qu'il faut toujours faire attention à leur coup de cisaille, car ils sont alors très pervers.
Oui.
Et c'est ce que je me suis dit, ce qui a sous-tendu un peu la lecture d'Amicizia.
Ah tiens.
Voilà, on écoute, merci Monique.
On y enferme de temps en temps, et tout ça s'accouche avec des truands, des capitaines aux yeux si bleus, qu'on voit la France pleurer dedans, des Jeannettes au ventre si blanc, qu'on voit la France bouger dedans, et des rouges au cœur si grand, qu'on voit la France s'aimer dedans. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'Afrène, le chien d'an, voisine avec la fleur des champs. On y promène de temps en temps, dans quatre mètres de murs blancs, des quarantaines de printemps, qui sont en berne des firmaments, aux mains de laine sortes d'enfants. Chaque semaine, ça fait 100 ans, la belle que l'on t'attend, un barreau de frêne entre les dents. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'Afrène, le chien dent, voisine avec la fleur des champs. On y malmène de temps en temps dans des arènes de ciment, des fortes têtes aux cheveux blancs qui ont eu le rêve trop entreprenant, des athées qui savent à 20 ans, qui sèment la poudre, récoltent le sang, qu'on ramène à Fresnes sans ménagement, voir si d'un Jésus on fait un forban. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec des gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'Afrène, le chien dent, voisine avec la fleur des champs.
Daniel Ziv, là, vous restez ou pas?
Malheureusement, je reste, parce que Maurice, en plus, était un camarade. Il allait sur scène, il chantait, de temps en temps, il s'arrêtait de chanter pour venir me piquer une gauloise. Et retournait chanter avec ma gauloise. Mais bon, et ce qui est très drôle aussi, c'est que là, j'essaye de publier 12 nouvelles totalement inédites de Maurice. On n'arrive pas à les retrouver, je suis en discussion avec sa femme. On les cherche partout, et dès qu'on les trouve, si on les trouve, j'aurais vraiment le grand, grand plaisir de les publier. Maurice était un type extraordinaire, moi je pourrais parler pendant des heures de Maurice.
Moi je l'ai vu une fois sur scène, il était ivre mort.
Toujours.
Il était ivre mort. Oui. Mais petite parenthèse, parce que j'en ai parlé là, il n'y a pas longtemps, c'était style Mouloudji. Mouloudji, la dernière fois aussi, je l'ai vu, il était ivre-mort.
Ah ouais.
Voilà. Donc ils arrivent à avoir une continuité comme ça. Mais toi qui n'es pas très porté sur la musique, sur ce genre de chansons, il faut bien le dire.
Oui, voilà. Encore que ça s'est largement ouvert.
J'ai remarqué, tu as progressé.
Ces dernières années.
Tu as progressé. Mais ça tient le choc.
Évidemment.
Ça tient le choc.
Ah ben évidemment,
oui.
Évidemment.
Voilà. Mais ce genre de chansons et ce genre de chanteurs, c'est là qu'on fait le tri. Parce que lorsqu'ils apparaissent, bon, ils sont là, c'est les en passant, on voit qui résiste.
Oui.
Quel type de voix résiste, quel type de texte résiste.
Il y avait un copain de Maurice qui chante toujours. et qui malheureusement n'est pas assez connu, c'est un type tout aussi extraordinaire, c'est Jean-Marie Vivier. Et Jean-Marie chante toujours. Très peu de gens connaissent les textes de Jean-Marie, et c'est hallucinant. C'est vraiment aussi quelqu'un de remarquable, comme Maurice, bien entendu.
Robert Desnos disait « Pourquoi écrivez-vous ? Pour vous donner rendez-vous. » Et je vous ai lu tous les deux. Monsieur Tessier, malheureusement, je vous ai lu. Daniel Zimon aussi. Et c'est très drôle, c'était un sur-rendez-vous. Parce que ça m'a fait relire, cette semaine, André Ardelais. Ouais, André Ardelais. Ça vous dit quelque chose, parce qu'à vous lire tous les deux... Vous êtes en plein dans le coup, là.
Le seuil du jardin, le parc de Vincennes. Voilà. Bien entendu.
Hein, Eric, tu as pratiqué un peu André Ardelais?
Ah, pas du tout.
Non, si, non. Eric, tu connais certainement André Ardelais sans le savoir.
Ah, bah, c'est certainement.
Parce qu'il a écrit une chanson.
Si tu reviens,
il n'y a jamais chanté chez Temporel.
Ah, bien sûr.
Ça s'appelle Le Tremblay et ça a été.
Et c'est très marrant parce que ses parents avaient un petit négoce de bijoux burma.
Horloger,
mais pas grand chose. Donc, lui, il a fait le poète et il a vécu avec le petit commerce de ses parents. Et au miracle, il y a Guy Béard qui un jour a mis en musique deux de ses chansons, le Tremblay connu comme chez Temporel, et puis une autre, je sais pas si vient de la Gambie, tu verras les filles, une chanson comme ça, et il va en vivre quasiment toute sa vie, quoi, avec deux titres d'auteur.
Mais
et
il aura des problèmes avec la censure.
Ah oui, vas-y parce que ça c'est intéressant.
Lourdes Lentes, donc il y a un livre
72-73, c'est Giscard.
Oui, et il a été attaqué pour ce livre qui n'a vraiment rien de pornographique, il faut dire, mais bon. Une fois de plus, la censure a frappé et il a eu beaucoup de problèmes, mais énormément de gens sont venus le défendre, heureusement.
Mais le thème est très beau dans Lourdes Lentes, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, hein, le petit garçon. C'est un petit garçon qui a sa nourrice, elle s'appelle Germaine, Mémène, elle est lourde, et elle est lente. Et toute sa vie, il va être hanté par ça.
D'accord.
Voilà. Et avant qu'on passe à des choses sérieuses. Jacques Chirac nous a quittés il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous entendez. Et Jacques, il y a une petite anecdote comme ça que la ville de Paris il y a eu un gros livre publié chez Segers, comme ça, qui était sponsorisé par la mairie de Paris, qui a tiré des millions d'affiches. Bah, il marquait André Ardelais, parce qu'il avait fait la préface. Et il y avait une faute d'orthographe sur l'affiche.
Je l'avais à la maison, avec un seul L.
Magnifique, avec un seul L. Il a fallu que ce soit Guy Chambellan, rue Racine, petit éditeur, qui téléphone, qui fasse une démarche pour qu'on enlève les affiches, pour qu'on en tire d'autres. C'est absolument génial.
Ils n'en ont pas tiré d'autres. Moi, j'avais appelé aussi à l'époque pour leur dire c'est scandaleux quand même d'avoir ces affiches dans tout Paris avec une erreur dans le nom d'André Ardelais. Ils les ont retirées, effectivement, mais j'en ai jamais revu de nouvelles. Ils m'en ont envoyé une, d'ailleurs. Mais l'ancienne.
Ah ouais.
Et le soir de la signature de notre cher Chirac, qui n'est pas venu sur Onde de Choc d'ailleurs, homme très cultivé, le jour où il y a eu le lancement du livre à la mairie de Paris, il est là, il dit, et à un moment donné, il dit « Qu'on me présente ce monsieur Ardelais ». Il était mort depuis 6 mois.
D'accord.
C'est absolument magnifique donc, comme histoire. Voilà. Bon, alors, responsable de la publication du livre d'Éric Tessier Amicitia, pourquoi, au fait ? Parce qu'il y a des points communs entre vous et lui, hein ?
D'abord parce qu'on a un ami commun,
ouais.
Pierre Barachan.
Ah, je me disais bien qu'on allait en parler.
Mais oui, il faut en parler. Pierre Barachan et sa compagne Émilie, qui écrivent des livres absolument remarquables, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc, et c'est grâce à lui qu'on se connaît. Ouais. Et c'est très amusant parce que Amicitia, et je prononce mal, je suis désolé,
j'ai pas le bon accent. Non, on prononce comme on veut.
Est un livre quelque part, bien entendu, sur le temps.
Ouais.
Et le temps, c'est aussi quelque chose qui me passionne.
Oui.
Et le dernier livre que j'ai fait est avant tout sur le temps, avec des discussions avec le temps.
Déjà éclairé sur le titre.
Amicitia.
Ouais.
En fait, ça veut dire amitié en latin. Hein. Ça part toujours de choses chez moi. Parce que moi, en fait, ce que j'aime, c'est que quand j'écris, c'est arriver à l'endroit où je ne sais pas où je vais. où je suis devant un terrain vierge. Je pars pas avec l'idée de me dire je vais faire un plan, je vais préparer un bouquin.
Ce qui répond pas à la question, Eric.
Non, hein. Mais je suis en train d'essayer de t'expliquer.
Attention, Eric, de pas trop.
Donc c'est parti sur une idée qui concernait. Qui avait rien à voir avec ça. Ça s'appelait. C'était par rapport aux Rolling Stones. Et je voulais raconter une histoire sur le temps, puisqu'ils se sont installés en France dans les années 70, dans une maison qui avait été un QG de la Gestapo. Et je voulais mêler des histoires entre un groupe de rock qui se retrouve enregistré dans un endroit où avant on torturait des gens. Voilà. Et il s'est trouvé que bon, cette maison s'appelait Nelcote, c'est sur la Côte d'Azur, ouais. Et que je me suis dit, tous ceux qui connaissent le rock vont faire la relation tout de suite. Donc j'ai regardé. En fait, le premier nom de cette maison, c'était Amicitia.
Ah. D'accord,
ou Amicitia, hein, comme on veut. Donc, j'ai gardé... je me suis dit, c'est un bon nom. Et après, évidemment, je suis parti totalement sur autre chose que les Rolling Stones et la Gestapo. Mais ça, c'est normal. Je fonctionne comme ça, quoi. Voilà. C'est ma façon de travailler. Moi, j'écris 5-6 pages, en général. Et je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux tirer de ce que j'ai fait ? Alors, comme j'ai quand même des choses qui reviennent tout le temps, notamment le temps, le rapport au temps, des choses comme ça, du coup, voilà, je tire un fil, je laisse ce que j'appelle la logique interne de l'histoire, c'est-à-dire c'est presque l'histoire qui me guide, et puis moi j'intègre mes propres trucs dedans, puis ça finit par se construire comme ça.
Alors, comme j'ai fait l'effort de te lire un petit peu...
J'ai cru remarquer.
Voilà, un petit peu. On a l'impression, quand je dis même pas une impression, qu'il y a dans le principe de l'écriture une intelligence. Laisse-moi tout voir. Comme s'il y avait une mémoire dans l'écriture.
Ouais.
Tu vois, je veux ouais. dire que on nous a bassiné avec l'écriture automatique. Mais une écriture automatique sans mémoire, sans rien à l'intérieur, c'est pas intéressant.
Mm.
C'est-à-dire que c'est le texte qui te révèle à toi-même. Mm.
Ah oui,
c'est ça que je veux dire.
Oui.
Et on sent dans ton aventure, c'est flottant.
Ouais.
Et c'est flottant. On sent que c'est révélé au fil de l'écriture.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça demeure une énigme.
Toujours.
Que tu n'arriveras pas à résoudre.
Non, mais je crois que j'ai pas envie de la résoudre en plus. J'ai envie de, je sais pas. Oui. Il y a ça et en même temps il y a. Je voulais. D'ailleurs, j'étais. C'est très content parce que c'est marqué dans la préface. Alors, je ne me souviens plus qui a écrit la préface, mais...
Par contre, celle-là, je l'ai lu, la préface.
C'est marqué que ça reste une énigme. Et je me suis dit, ben oui, c'est exactement ça. Et ça doit rester une énigme.
Alors, est-ce que c'est pas... En fin de compte, on ne va pas faire de la phraseologie facile. Et ce n'est pas la grande énigme d'être, en fin de compte.
Bah si.
Puisque on a le logos. Le logos, c'est fait pour
oui,
être.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas la grande énigme d'être ?
Si, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Daniel.
Enfin, pour moi, hein.
Oui, absolument, absolument.
Ouais.
Je suis bien d'accord.
À moins de faire des romans psychologiques, des romans comme ça, qui
ouais, n'ont
aucune
pas.
Forme d'intérêt, quoi.
Oui, ça ne m'intéresse pas.
C'est très drôle, parce que je fais rarement des missions sur des romans. J'en ai fait une il y a quelques temps. Monique peut en témoigner, d'ailleurs. Mm. Et l'éditeur Benoît Viraud, du Nouvel Attila, à la fin, alors qu'il publie des livres qui sont quand même des livres dans le circuit qui fonctionnent très bien, dit à la fin au micro, il dit, de toute façon, le plus grand livre, c'est Fantomas.
Ah oui.
Et là, je crois que ni Daniel, ni oui. toi, on ne peut pas aller contre, non?
Ah bah non, enfin moi non.
Le plus grand livre, non, parce que pour moi, les plus grands livres, ce sont les livres de Prévert. Mais sinon, je serais d'accord. Mais je ne pourrais jamais mettre quelqu'un devant Prévert. Ça, c'est quelque chose.
Ah oui.
Mais tu restes derrière, quand même, accroché à bien faire attention au
ouais.
terme, au feuilleton populaire.
Ah, mais, tu sais ce qu'on vient de terminer de regarder. Là, tu ne le sais pas, mais je te le dis. Mmh. On a terminé hier. On a regardé le cycle Les Vampires de Louis Feuillade.
Magnifique, oui. Là,
c'est
magnifique.
Là, c'est grand, ça.
Ah, ouais.
Ça, c'est magnifique. Et moi, j'adore ça. Et c'est mon rêve. Et je me souviens d'une, d'une discussion que j'avais eue une fois avec Jean Rollin.
Oui, tu m'as enlevé le verbe de la bouche, là.
Voilà, et Jean Rollin, on a passé une après-midi où on a refait le monde tous les deux parce qu'on voulait relancer, enfin, on savait que c'était pas possible, mais on voulait relancer des feuilletons. On voulait relancer des, comment ça s'appelle, ces petits, pas des illustrés, mais des petits fascicules, voilà, à 3 francs 6 sous, avec justement tous ces trucs populaires, genre Fantomas ou les vampires ou tout ça.
Il y a, un festival vampire à la Cinémathèque. Ouais. Il n'y a pas un film de Jean Rollin programmé.
Oh putain.
Voilà. Et le plus drôle, pour ceux qui partaient là, on parlait du Père Lachaise, là. Mm-hmm. Alors Jean Rollin, je ne sais pas si tu as fait le pèlerinage, il a réussi, je ne sais pas comment, à être enterré dans le caveau Napoléon, dans un caveau du carré napoléonien.
C'est vrai?
Ouais. C'est absolument génial, non?
Oh là là. Oui, c'est formidable.
C'est absolument génial.
Mais si on parle de la mort, mais pourquoi ne pas en parler? Au contraire, on parlait tout à l'heure de Maurice. Maurice Fanon, en Bananard, est mort un 1er mai, et Léo est mort un 14 juillet. Ça aussi, c'est étonnant.
Ah ouais.
Mais bon.
Ouais.
Mais sinon, pour Amicitia, si je peux me permettre.
Vas-y.
Pour moi, c'est pas un roman.
Ah, c'est pas du tout un
roman.
C'est une escroquerie, c'est pas du tout un roman.
Oui, c'est vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis.
C'est pas du tout. D'ailleurs,
je suis un mauvais escroc parce
d'ailleurs,
que.
Annick Stevens est venue ici, invitée dans une très mauvaise émission, celle de Monique en coulisses. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'ai préfacé un roman. Ouais. Elle me dit, c'est drôle de préfacer un roman. Je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je te raconte que ce n'est pas un roman.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est? Une dérive?
Je ne sais pas. Oui, tu avais employé le mot dérive pour toi une fois, et je suis assez d'accord, en fait. J'aime bien ce mot. D'ailleurs, je ne mets jamais roman dans... Même Le Prédateur, il n'y a pas marqué roman. Il n'y a jamais marqué ça. Et je ne sais pas si je l'ai présenté comme un roman quand je te l'ai envoyé, mais en tout cas...
Non, tu m'as rien dit.
Non, je crois pas.
Ça valait mieux. Hein.
Oui.
mais on arrive au même principe que ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est quelque chose qui part comme ça et on
c'est
sait pas, et ça,
ça
flotte, on ne sait pas où ça va.
Ça va nulle part.
Et en même temps, c'est pas, encore une fois, c'est d'une énigme non résolue.
C'est un non-livre.
Oui, un non-livre.
Ouais, c'est un non-livre.
Un non-livre, voilà.
C'est magnifique.
Et c'est pour ça que ça m'a. Cette émission, j'ai tenu à la faire tous les deux. Il
ouais.
y a des choses qui passent.
Ah, il y a des correspondances.
Il y a beaucoup de correspondances. C'est très étrange, en fait.
Ouais.
Quelque part, il n'y aurait aucune raison, et pourtant.
Moi, c'est marrant parce que quand j'ai lu Ce n'est rien, j'avais l'impression qu'on dialoguait.
Absolument.
Alors qu'on s'était pas connu.
Pareil avec Amicitia.
On se connaissait pas quand on écrivait chacun de notre côté notre truc. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'un dialogue. Hein. Ah ouais.
Alors, preuve à l'appui pour vous confondre. Ah. On va d'abord écouter une chanson. On va faire Maurice Fanon, hein, d'accord?
Alors,
on va s'offrir ça. Et après, je vais lire deux passages de vous et vous allez voir, il y a quand même... Je me demande qui a copié l'autre.
Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois, j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous, quand on se disait vous, si je porte à mon cou en souvenir de toi ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous en regardant le soir tomber sur nos genoux c'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux, si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce soupir de soi, qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois, comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts, de tes doigts qui se mouillent, l'empreinte de ce jour où les doigts se tenaient. Si je porte à mon cou en souvenir de toi cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi. Ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.
Ah, merci Monique au 01 43 71 89 40. Donc je vais lire deux passages pour prouver, pour en aboutir à vos impuissances mutuelles. Je pense dans une langue qui n'est pas la mienne. Je pense soudain dans une langue que je n'ai pas apprise, que je ne parle pas. Je ne comprends pas ce que je pense. Et pourtant, je pense, les mots se dévident, inconnus, incongrus, interrompus. Est-ce cela la conscience qu'on a de soi? Notre identité s'est réduite-t-elle à ce torrent de sons qui font ou sont censés faire sens jour et nuit, y compris jusque dans les rêves? Peut-on se représenter ce que nous serions sans eux? Comment se fait-il que le courant me traverse toujours immuable? Comment se fait-il que je ne sois pas la source de cette pensée, puisque je ne peux le faire a priori qu'avec un vocabulaire acquis, une construction intellectuelle maîtrisée? La pensée aurait-elle une autre origine? Existe-t-elle en dehors de nous, bien que profondément ancrée en nous? Nous la percevons comme un instrument à notre service, mais ne serait-ce pas elle, en définitive, qui nous utilise depuis le début des temps? Quoi qu'il en soit, je sais que je pense dans une langue qui n'est pas la mienne, même si je ne puis l'exprimer ni à moi ni aux autres. Hérité si amicitia. Ce n'est rien. Daniel Ziv. Chapitre 12e, funérailles. En 1871, durant la Commune, les derniers combats entre Versaillais et fédérés se déroulent à la fin de la semaine sanglante. Les fédérés prisonniers sont massacrés par les troupes versaillaises. Après les combats, on amène 148 prisonniers qui sont fusillés contre le mur qui porte désormais le nom. Il y avait peu de monde. Papageno, papa, papagena, papa, papageno, papa. Je ne vais pas poursuivre comme ça, mais je veux dire qu'à un moment donné, on a l'impression que le langage, alors qu'il est, alors c'est ça le grand mystère, d'un bout à l'autre de vos livres est très bien structuré, donc ce n'est pas rien, le langage est très bien structuré, mais à un moment donné, la parole vous échappe. Toi-même, tu inventes une langue inversée.
Oui, c'est voilà. Ça, oui.
Et puis là, brusquement, j'ai envie de dire que Daniel, Papageno, passe dans une autre langue pendant, jusqu'au bout. Et ça finit, les couleurs s'apaisent, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de bruit. Voilà. On a l'impression que tout ça est très bien structuré, et comme on dit vulgairement, à un moment donné, ça vous échappe. Vous perdez les pédales, ça vous échappe.
Ben, je ne sais pas si c'est échappé ou si c'est, au contraire, ouvrir une porte et laisser des choses sortir. C'est-à-dire que l'important, c'est... Enfin, quand je dis, tu dis laisser échapper, c'est comme si... Enfin, si ça nous échappait, c'est comme si on ne maîtrisait pas le truc. Là, c'est comme si ce n'était pas volontaire.
Non, tu t'exprimes sur le mot truc, parce que tout est là.
Ouais,
tout
pardon,
est là, excuse-moi. Tout est là. Est-ce que tu parles de ta pensée ou du langage? Parce que lorsque tu dis...
La pensée.
Je pense, c'est pas moi qui pense, etc. Lorsque tu racontes tout ça, tu le dis dans un langage très bien structuré.
Oui, tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était sur le fait de ça nous échappe. Moi, je pense qu'il y a quand même, c'est quand même, en tout cas, pour moi, volontaire. C'est-à-dire l'idée de dire voilà, j'ouvre une porte et puis il y a des choses qui vont sortir. Voilà, mais c'est moi qui ouvre la porte.
Mais c'est pareil, ce n'est rien. Bon, d'abord, c'est un non-livre. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. J'en ai écrit une partie, mais à un moment donné, il m'échappe totalement, puisqu'il y a d'autres gens qui le prennent et qui se mettent à écrire à ma place. Bon, j'y peux rien, je ne peux pas les arrêter. Et ce que je voudrais faire avec ce livre, et d'ailleurs je suis en train d'en écrire une autre partie, c'est que des gens interviennent. Lorsque je discute avec le temps, par exemple, puisqu'on a, on a des longues discussions, le temps et moi, c'est que d'autres gens, que ce soit des gens qui écoutent la radio en ce moment, que ce soit des philosophes, des astrophysiciens, viennent et viennent discuter avec nous et avec le temps, et qu'ils se répondent les uns les autres, à travers le temps, entre guillemets, s'il existe. Et que ça dure pendant des années, que dans 10 ans, des gens continuent à écrire, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, puisqu'on appelle le temps des années, et que les gens se répondent, et que ce livre ne se termine jamais.
Mmh. Parmi la multitude de des trahisons, Éric Tessier, et par rapport à la structure de ton livre, tu peux t'exprimer. Hein.
Non, mais je t'écoute. Non,
je dis que tu viens quand même, puisqu'on se connaît légèrement, tu viens quand même d'un certain monde, que le monde de la Beat Generation, des gens comme Burroughs, des gens comme Ginsberg, et là, ton langage...
Surtout Burroughs.
Surtout Burroughs.
Ah ouais, c'est
les garçons sauvages magnifiques.
Ah ouais, ça m'a flingué.
Non.
Tout à fait.
Ah ouais, quand j'ai découvert.
C'est très drôle. Attends, petite parenthèse. Vas-y. C'est qu'on tombe maintenant dans une génération de gens à qui il m'arrive de ressentir. Ça ne veut plus rien dire.
Ah ouais.
C'est-à-dire que j'ai fait une émission avec deux personnes, un Canadien qui a écrit un très beau livre d'ailleurs, et puis un type qui avait bien sous tout rapport. Ils n'ont rien à voir avec Burroughs. La Beat Generation, c'est complètement effacé.
Et il y a un livre de Burroughs, justement, qui se promène totalement à travers le temps.
Ouais, bien sûr.
C'est lequel
qui explose.
Non, pas le ticket. Il y en a un autre aussi.
La machine molle, la magnifique. Oui, donc tu es revenu à une langue que tu n'as jamais quittée d'ailleurs. Hein, c'est, qui est complètement structurée.
Oui, c'est
ça que je veux dire. Je veux dire que quand Robert Desnos, il avait 20, tout jeune, une vingtaine d'années, part dans des sommeils inoptiques, son langage est au niveau syntaxique absolument parfait.
Oui.
C'est ça qui est prodigieux.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre ta pensée, ta pensée et le langage.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un truc que j'avais fait une rencontre.
Dieu. T'as rencontré Dieu, Éric.
Oui, et elle était noire. Non, en fait, j'ai fait une rencontre. C'était littéraire, bien sûr. C'était moi, c'est Burroughs qui m'a avec Selby aussi quand même. Hein, Hubert Selby m'a beaucoup marqué. Et puis donc j'ai rencontré ces deux-là. Et puis un jour, je suis tombé sur Jean Genet. Et c'est là où je me suis dit, tiens, mais on peut aussi s'exprimer comme Jean Genet, c'est-à-dire que Jean Genet écrit magnifiquement bien. Et en même temps, c'est extrême.
Mais Jean Genet, tu peux te poser la question, comme un garçon sans éducation, il n'a pas d'éducation.
C'est incroyable.
Français, et de plus, avec une science, quand il commence à faire du théâtre, une science du théâtre absolument remarquable.
Oui.
Où c'est qu'il a eu ça? Alors là, est-ce qu'il avait un nègre?
Non, je ne crois pas.
Mais pour revenir à Selby, Selby et Burroughs, ça appartient à ta première période.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
Hein, quand tu étais encore fréquentable.
Oui, hein, c'est ça.
D'accord. Si on prend le prédateur, je ne veux pas te dénoncer ici. Non. Il y a quand même des scènes de trachéotomie à usage érotique, si je.
Oui, tout à fait. Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Vous avez lu le prédateur?
Non, il l'a pas lu.
Non, moi,
je vais te l'envoyer.
Pas lu. Oui, bon, d'accord.
Je vais te l'envoyer.
Il est très peu fréquentable à l'époque, d'accord. Bon, là-dedans, tu as quand même donné au niveau de la respectabilité, je tiens à te le dire, au niveau de l'amitié de sien, à mettre deux petites choses. C'est juste après là, cette magnifique préface.
C'est l'avant-propos.
Alors, bien qu'Amicitia soit une fiction, les faits rapportés dans le chapitre 9 reposent sur des événements réels. Le lecteur qui désirerait en savoir plus lira avec profit l'excellent Les bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembene.
Ouais.
Et après, on croise de même un personnage ayant réellement existé, Marius Jacob, un anarchiste de la Belle Époque, Alexandre Marius Jacob, d'Alain Sergent, de cet anarchiste qui a inspiré les personnages d'Arsène Lupin à Maurice Leblanc. On en apprendra plus aux lecteurs intéressés. On va écouter une chanson et puis on va dériver là-dessus.
Ok.
Sur l'écriture et l'histoire.
Ok.
Hein, sur l'écriture et le politique.
Ah oui, tout à fait.
On est sur Radio Libertaire. Hein.
Mais tout à fait,
la radio écuménique. Hein,
en plus, mon Dieu. Ce livre, pour moi, est un livre politique.
Bien sûr. Monique.
C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire aux marins
aux Anglais. Je vais vous le montrer, mon Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime en étranger. Et dans le fond de la mémoire, une voix répond en français. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tourneur à Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris, sur la Seine. Et depuis que tu m'aimes, amoureux de tes yeux, sans problème. Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Je ne suis pas anglais, et pourtant tu me plais, je t'emmène. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est demain. Il faut qu'on s'aime bien, pour hier, pour demain. C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire je t'aime un Anglais, un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive qu'un beau soir, on dise je t'aime sans y penser. Et ça fait mal à n'y pas croire, cette voix qui vient du passé. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Il s'appelait Martin, Jean-Marie de Pantin, et tu l'aimes. L'était plus qu'un marin quand t'étais dans ses mains, car tu l'aimes. L'était plus qu'un Anglais, le Pas-de-Calais, ça ne vaut pas la Seine. Il n'y a jamais loin d'aujourd'hui à demain, quand on s'aime. Quand tu verras Pantin, Calais ne sera plus qu'un baptême. Hier c'était hier, et demain c'est demain. Faut que tu l'aimes bien, Jean-Marie de Pantin.
Et au 01 43 71 89 40, toujours sur Radio Libertaire. Oui, ça fout le blues. Hein, cette chose, hein, c'est, ouais, il a quelque chose en plus, c'est-à-dire au niveau de la voix, au niveau du texte. C'est des fois, c'est au niveau du. C'est même pas sensique.
Ouais.
On écoute bien, il est aux limites, il se tient aux limites du sensique, des fois.
Et au début, on parle de sa voix. Au début, Maurice ne voulait pas chanter parce que sa voix était catastrophique. Il écrivait pour les autres. Et les gens lui ont dit mais si, il faut que tu te mettes à chanter aussi. Et voilà, et c'est Maurice. Fait. Mais au départ, sa voix était un problème, apparemment.
Toi, tu me disais que j'étais pas effectivement.
Ah, t'es revenu, tu reviens à la charge maintenant.
Très longtemps, pas branché sur la chanson française, jusqu'au jour où j'ai réalisé une chose, c'est que tu parlais de blues et que j'aimais le blues et que je me suis dit, ça c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est du blues, mais du blues français. Enfin, c'est l'équivalent, je veux dire. C'est comme il. Voilà, parce que ça raconte les mêmes choses, en fait.
Hein. Quand on écoute Fréhel, c'est du blues. Hein.
Fréhel, oui, tout à fait. Des gens comme ça, voilà. Voilà. Bon, et ça, j'ai. Malgré tout. Ça finit par rentrer.
Encore une bonne vingtaine d'années, on va y arriver, Eric Tessier.
Ah oui, ben voilà.
Pour toi, c'est du blues, et pour moi, c'est du topical folk.
Ah.
Pete Seeger, Woody Guthrie,
oui,
Tom Paxton et compagnie.
Ah bah oui. Je te rejoins aussi, oui, tout à fait, oui.
Ça vous inspire, Frantz Fanon?
Oui.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Voilà, avec Maurice, bien sûr.
Non, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit, d'ailleurs. Catapultage.
Oui, Frantz Fanon, bien sûr.
Histoire, donc il naît à la Martinique, il va s'engager dans les... Il va débarquer, il va du premier débarquement, donc un noir qui débarque, et il n'est pas très bien traité, il a 19 ans. Vous savez qu'il a fini avec, en soutenant la révolution algérienne, hein, il avait même été un officiel de la révolution algérienne, mais à 19 ans, 20 ans, il se retrouve là-bas avec l'armée française dans l'Est. Et il va être décoré pour son mérite. Et qui lui remet la décoration? C'est le général Salan.
Oh putain!
J'ai lu ça dernièrement,
ah ouais.
c'est fabuleux.
Ouais.
Le type qui 10 ans plus tard, 10 ans ou 15 ans plus tard, va s'engager, va soutenir le FLN, et le type qui le décore, c'est le général Salan.
Ouais.
Dans le même genre d'idée, j'ai retrouvé chez mon père, quand il est décédé, un livre qui est, c'est les mémoires de Bijard. Et j'ouvre au hasard, comme ça, avant de vouloir le jeter. Et je vois, je n'ai jamais connu de combattants plus méritants et plus courageux que les anarchistes espagnols qui étaient sous mes ordres. Et il dit, il commence à dire, on a réussi à tenir un village contre les Allemands parce que les Espagnols, ils n'ont jamais voulu lâcher et ils n'ont pas reculé d'un pas. Et je me dis, Bijard, c'est quand même quelque chose.
Oui. Hein? Et ben ça c'est le phénomène qu'on a reconnu bien plus tard, c'est le phénomène ce qu'on appelle la névée.
Oui, la névée.
C'est ceux-là. Qui sont rentrés les premiers à Paris. Avec le général Leclerc. Et ça a été caché pendant des années et des années.
J'ai même lu qu'on avait refait des images d'histoire, qu'on avait refilmé des entrées de pour mettre des soldats blancs. Parce qu'il y avait aussi des noirs dedans, donc
parce qu'il a fout mal.
Ça la fout mal.
Ça la fout mal.
Des noirs et des moricots.
Ça la fout mal. Alors, ce n'est rien, l'amitié, là. Est-ce que tout ça, ce domaine où un non-livre et puis quelque chose qui part dans une dérive, ça échappe aux politiques et à l'histoire?
Ah bah non.
Pas du tout.
Ah bah non, au contraire.
C'est l'inverse, oui.
Oui, hein.
C'est l'inverse.
Ah oui.
C'est pour moi que vous allez convaincre. D'accord. Voilà.
Oui, tu parlais de ce petit avant-propos que j'ai mis.
Quand tu me dis qu'Amicitia est un livre politique, mais bien sûr.
Oui, bien sûr, oui. Et je voulais absolument... Alors, c'était comment arriver à intégrer des éléments... par exemple, je parle des bouts de bois de Dieu de Samben, Ousmane Samben, c'est parce que quand j'ai le bouquin, j'étais sur le cul, quoi. C'était... ça raconte l'histoire d'une grève, hein. En Afrique, au Sénégal.
En quelle année?
C'est juste après la guerre. Les ouvriers noirs veulent les mêmes droits que les ouvriers français. Évidemment, ils les ont pas. Et alors, Samben raconte que la ville est divisée. La ville, c'est Dakar. Elle est divisée en deux. Il y a le quartier des colons où là, il y a tout le confort, et il y a la ville indigène. Alors c'est déjà formidable parce que tu te dis sa vie indigène, bon, ils sont chez eux, quoi. Et eux, ils n'ont pas le tout à l'égout, ils n'ont rien. Et ils ont des fontaines. Ils ont des fontaines où ils vont boire, ils vont chercher l'eau, ils vont puiser l'eau. Et comme ils étaient en grève, les colons, l'administration coloniale, fermait les fontaines de façon à ce que les gens, les Africains, n'aient pas d'eau. Alors évidemment, t'imagines en plein été, et puis même en hiver, de toute façon, sans eau, on ne peut pas vivre. Et ils ouvraient de temps en temps, pendant 5 minutes, mais de façon totalement aléatoire. Et ce qui fait que les femmes et les enfants passaient leur journée à ces fontaines, à guetter que ça coule, pour pouvoir avoir un petit peu d'eau. Et bon, il y a plein d'exemples comme ça dans son bouquin. Alors moi, j'avais envie de parler de ça, de ce genre de choses, et je me disais comment je vais réussir à intégrer ça dans Amicitia, qui parle du temps. Et je suis parti sur des histoires, en fait, d'une gare avec des affiches. Et chaque affiche, en fait, ouvre une fenêtre et raconte une histoire. Et c'est pour ça que on est dans un endroit un peu imaginaire, c'est les Carpates françaises. Mais en fait, c'est pas loin de chez toi, hein, Daniel. C'est en fait le pour moi la ville, c'est Nantua.
Oui.
Voilà. Et j'ai changé le nom, j'ai changé tout, mais je veux dire, on se retrouve de Nantua, on part en Afrique, et là, on parle de ça. D'ailleurs, il y a un personnage africain, et ça fait aussi partie de son passé. C'est aussi montrer la France actuelle, qui est une France où il y a des Noirs, et tant mieux. Je veux dire, pour moi, tout ce qui est autre, c'est une richesse supplémentaire.
Saint-Exupéry, mon frère, si tu diffères de moi, au lieu de m'appauvrir, tu m'enrichis.
Exactement.
Bien sûr.
Ouais.
Et c'est le grand apport des surréalistes d'avoir très tôt expliqué que l'imaginaire, pas l'imagination, l'imaginaire était politique. Oui. C'était indissociable, le politique, on est indissociable, il est politique. Mais Daniel Zim, puisque c'est récurrent dans vos écrits, dans les deux livres que j'ai lus, votre livre de poèmes, et ce n'est rien, là. Il y a le phénomène des camps qui est récurrent chez vous.
Oui.
Hein?
Oui, il y a le temps qui est récurrent et les camps qui sont récurrents. Mmh. Parce qu'on peut se demander comment l'être humain peut en arriver à de telles extrémités. Et quelque part, ça rejoint le temps, ça rejoint beaucoup de choses. Dans une autre partie de Ce n'est rien, qui est sur laquelle je travaille, ça sera sur l'argent. C'est pareil, tout ça se rejoint. Mmh. C'est-à-dire le temps, dans cette partie de Ce n'est rien, je ne dis pas la première parce qu'il n'y a pas de première, deuxième partie, ou troisième, quoi que ce soit. Le temps, en fait, n'existe peut-être pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis que peut-être il n'existe pas. Dès qu'on s'intéresse à la quatrième, à la cinquième dimension et aux dimensions qui suivent et qui existent, ça on le sait, on se rend compte de la manière dont nous sommes limités en fait dans notre manière de penser. Nous ne pouvons pas voir au-delà de nos trois dimensions. Il y avait un livre au 19e siècle qui est absolument merveilleux, qui se passe dans deux dimensions. Et les gens qui sont dans les deux dimensions ne peuvent pas atteindre notre monde. Ah, c'est... pas Lapland, mais le nom va me revenir, qui est un livre merveilleux. Et de la même façon, nous ne pouvons pas atteindre la quatrième, la cinquième dimension. Certains disent le temps est la quatrième dimension, mais si le temps n'existe pas, ce n'est pas possible. Et de toute manière, le temps n'est pas la quatrième dimension. C'est quelque chose... C'est à cause de ça, peut-être, qu'on a créé Dieu.
Peut-être.
L'idée de Dieu, en fait, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on trouve une raison à tout ce qui existe. Nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nous pouvons comprendre. On ne peut pas comprendre la quatrième, la cinquième dimension, donc il fallait créer quelque chose. On a créé Dieu.
Peut-être qu'un Dieu m'a condamné au temps cette longue illusion. Borges. La classe, hein,
Borges.
Hein, ça a la classe, Borges. Hein. Une mission va vous incomber après la chanson qu'on va écouter, c'est de parler d'André Verdet. Ça vous va ?
Avec grand plaisir.
D'accord. Merci Monique.
Viens, allez viens, mon amour. Je t'emmène faire un tour sur le zinc. À petits coups de bière, à petits coups de vin, nous boirons la rosée de ce petit matin pour noyer ton chagrin. Je t'emmène en croisière, en langues étrangères, comme font les rupins. Ma lady, t'es ma lady. Mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma ballade des Anglais. Viens avec moi, mon amour, voir le jour se lever sur le zinc. Moi le soleil et le rouquin, on glissera une bague d'or fin à chacun de tes doigts. Viens ma peau de chagrin, je t'emmène en The Rocks jusqu'à l'aube en The Clocks, comme chez les rupins. Ma lady, t'es ma lady, mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma ballade
des Anglais. Rien n'est plus doux, mon amour, qu'un petit verre de velours sur le zinc, à petits coups de lèvres, à petits coups de cœur, nous irons jusqu'au bout de ce petit bonheur. Tu seras mon gratin, mon luxe, ma vie chère, mes lèvres sur tes mains, comme font les rupins. Ma lady, t'es ma lady, mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma balade des Anglais. Ma lady.
Eh ben, sur Radio Libertaire, toujours avec Maurice Fanon, 01 43 71 89 40. Oui, André Verdet.
André Verdet, c'est une histoire aussi très surprenante. Un jour, j'avais un vieil ami, Robert Ostier, qui savait que j'aimais les livres, et qui me dit, écoute, est-ce que tu peux me retrouver un livre d'André Verdet qui s'appelle La nuit n'est pas la nuit? C'est un livre qu'il a écrit en sortant des camps de concentration, et il voulait le trouver pour la fille d'André. Je cherche ce livre, je ne le trouve pas. Mais je tombe sur des tas de livres d'André Verdet. Je me dis, mais c'est qui? Comment ça se fait que je ne connais pas cet André Verdet? Je tombe même sur des livres qu'il a écrits avec Jacques Prévert.
Oui, ça, c'est...
L'histoire, par exemple. C'est à Saint-Paul-de-Vence. C'est Prévert-Verdet. Je commence à être surpris. J'ai des livres. Bon, je lui écris en disant, j'aimerais bien vous rencontrer. Pas de réponse. Bon, un jour, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Je vois un monsieur à cheveux blancs qui passe. Je vais le voir, je lui dis, vous êtes André Verdet. Il me dit, oui, vous êtes Daniel Ziv. Déjà, mystère complet. Il m'avait répondu, mais il était en Italie à l'époque, j'avais pas reçu sa lettre, ma boîte à lettres avait été défoncée, ou je sais pas trop quoi. Et on s'est mis à discuter, et on est devenus assez amis. Et vraiment, vraiment... Alors le plus drôle, c'est que donc le livre que j'ai cherché, c'est pour la fille d'André Verdet, mais il a jamais eu de fille. Ça, c'est autre chose.
Ça se complique.
C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, André, j'ai fait plusieurs livres avec lui. C'était un type merveilleux. Il a écrit plus de 260 livres. Certains avec Prévert, bien sûr. C'était un peintre aussi. C'est Picasso qui lui a dit de se mettre à la peinture. Un jour, Picasso voit son poignet avec le numéro d'écrit quand il était sorti des camps. Et Picasso a embrassé sa main. Et ensuite, André lui a fait un bouquet de fleurs. Et Picasso a dit, écoute, ça, il faut que tu deviennes peintre. Et André est devenu peintre à cause de Picasso. Et sculpteur aussi. Astrophysicien aussi. Donc très copain justement avec mon copain Jean-Claude Péquer.
Ouais.
Que j'ai rencontré plus tard tout à fait par hasard.
Ça il y a un musée à Corte-sur-Ciel, André Verdet.
Oui, absolument.
D'accord.
Absolument.
Il y a vous devriez le Corte-sur-Ciel, Ritessier.
Et donc, alors, André, bon, j'ai fait deux livres avec lui. Il avait aussi un orchestre de jazz, absolument remarquable. Et il faut le voir sur scène à 84, 85 ans, en train de chanter.
Ah ouais?
Ah oui, mais vraiment des choses tout à fait étonnantes.
Ouais.
Et donc, bon, on a fait deux livres. J'ai fait un documentaire sur André aussi. Et c'est très drôle, c'est un documentaire que j'ai coproduit avec la Suède, avec l'Italie, avec l'Espagne, mais en France, personne. J'ai trouvé une petite télévision locale. Chez Arte, on m'a dit, c'est passionnant, mais il n'est pas assez connu, on ne peut rien faire. J'aurais dit, c'est justement parce qu'il n'est pas assez connu. Mais bon, ça ne les intéressait pas, il n'était pas assez connu. Donc ça a été coproduit avec des chaînes étrangères uniquement. Voilà, c'est...
Mais en quelle année, André Verdet?
Il est mort il y a 12 ans maintenant, je crois.
Il avait un âge canonique, non?
Non, il devait avoir 92, 91, 92 ans,
beaucoup
de mémoire.
Hein. D'accord.
Pas plus. Il est mort très rapidement, en fait, André. Il était coureur automobile aussi, il a fait des tas de choses. C'était un copain de Desnos, puisqu'on parlait de Desnos tout à l'heure. Il s'est fait arrêter, il s'est retrouvé dans les camps parce qu'il faisait dérailler les trains, c'était assez mal vu à l'époque.
Roger Vaillant aussi, hein, parenthèse. Hein. Roger Vaillant faisait des rails.
Et Desnos, donc, ils sont partis à Auschwitz ensemble. Ils étaient à Drancy, ils sont partis de Drancy dans le même convoi. André Desnos. Mais à côté de ça, c'est un auteur extraordinaire. Je dis plus de 260 livres. Il n'est pas connu. Pas encore. Picasso a dit, tu n'es pas connu parce que tu fais partie d'un autre âge. Peut-être que dans 20 ans, là, tu seras reconnu. Et tu fais trop de choses à la fois aussi. Mm-hmm. C'est ce que lui a dit Picasso. Et en même temps, une autre raison, je ne sais pas, pour laquelle il n'est pas connu, c'est qu'il a toujours aidé les autres. Il a fait connaître des tas de gens lui-même, il a fait connaître des tas de gens. Il a écrit des livres sur énormément d'auteurs et les a fait connaître. Et il n'y a jamais eu, en fait, de retour, quelque part. C'est assez étrange.
Tu voulais saluer quelqu'un aussi, je pense, aussi. Tu sais plus ce que tu dis, Eric Tessier.
Oui, si, non.
Mais on écoutait. Non, profite-en.
Oui, j'étais passionné.
D'accord, c'est bien, je t'ai vu.
Oui.
Et donc, tu voulais saluer quelqu'un.
Oui.
Je crois qu'il t'aire. Tu m'as dit qu'il faut parler de Pierre.
Oui, Pierre Barachan.
Passez-moi le livre pendant ce temps-là, ça me fera plaisir.
Je veux absolument...
Pierre Barachan, d'abord, oui.
Absolument parler de Pierre, Pierre Barachan.
Et Émilie.
Et Émilie.
Panisset
Barachan. Pierre, je le connais depuis très longtemps. On ne s'est pas vu souvent, assez bizarrement, mais on a toujours correspondu. Et voilà, c'est un type qui écrit des bouquins formidables. Il s'est toujours galéré, quoi. C'est hallucinant de voir la qualité de ce qu'il fait et de voir que on est dans une période, je crois, où avant il y avait des critiques, bonnes ou mauvaises, ouais. Mais maintenant il y a même plus de mauvaises critiques, c'est-à-dire que c'est soit des très bonnes parce que t'es très connu, sinon on parle pas de toi. Tu n'auras même pas une mauvaise critique, on ne parlera pas de toi.
Oui.
Je pense que...
Il y a une occultation de la littérature, bien sûr.
Mais complètement. Fait, bien sûr. Complètement. Et Pierre, c'est un type qu'il faut absolument pousser. Je pense que ce n'est pas Daniel qui va dire l'inverse.
Petite parenthèse.
Oui, vas-y.
Tu prends les années 30, tu prends les années 20, tu prends les années 50. Tu regardes ce qu'ont été les auteurs en vogue de l'époque. Ils ont publié, ça a été publié, tu avais des lecteurs... Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? C'est à tomber des mains.
Tout à fait.
C'est à tomber des mains. T'as des prix Goncourt, hein, Un homme se penche. C'est le livre qui a été. Excuse-moi. Déjà, le titre est complètement con. Un homme se penche sur son passé. C'était le livre le plus vendu. Mais ça vous tombe des mains. Et même des gens qu'on nous a glorifiés, qui seraient peut-être moins, entre guillemets, même du Hervé Bazin, par exemple, Paul Guimard, j'ai essayé de relire un Paul Guimard il n'y a pas longtemps, parce que le thème m'intéressait, c'est l'ironie des choses. Voilà. Mais c'est illisible.
Ça te
tombe des mains. Vas-y.
Je m'étais amusé à lire la liste des prix Goncourt, et c'est vrai que j'étais très surpris de voir que j'en connaissais un tiers, c'était quand même extraordinaire.
Oui, mais il faut voir que le langage, ce qu'ils produisent, ça correspond à l'ère du temps, et ça s'efface aussi rapidement.
Ouais.
Voilà.
J'avais envie de lire, alors ça ne va pas être facile.
Ça va pas être facile.
On
ne
voit
pas
très bien. Mais c'est un extrait de Demain, c'est pour toujours, de Pierre Barachan. C'est très court, je te rassure. C'est un livre sur, je dirais, sur l'amour, sur l'absence, sur la mort, sur le deuil. Et moi, j'ai été profondément remué par ce livre, ce qui n'est pas la première fois avec Pierre. Et donc, je lis un extrait, donc un peu dans la pénombre, mais je pense que je vais m'en sortir.
Ça fait un peu boîte de nuit.
On ne s'en rend pas compte à la radio, enfin, les auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais bon. En faisant le grand ménage, j'avais retrouvé un coupe-cigare qu'on m'avait offert lors d'un de mes anniversaires, en même temps qu'une boîte de 24 Havanes. Une merveille de précision et de robustesse en acier nickelé. J'avais payé pour savoir ce qu'il en coûtait d'atermoiement. Soyez patients, nous y reviendrons. Je n'ai donc pas hésité. J'ai couru à la pharmacie, fait quelques emplettes, puis... Avec les gestes précis d'un boucher, j'en ai éprouvé le fil, l'ai passé à la flamme et arrosé d'alcool. Je l'ai ensuite posé verticalement sur le rebord de l'évier, y ai introduit mon petit doigt gauche jusqu'à la jointure de la deuxième phalange. Et, après avoir bloqué ma respiration, j'ai frappé un coup sec du plat de mon autre main. Ce fut si facile. Le sang s'est mis à gicler, moins pourtant que je ne l'aurais imaginé. Mais j'ai eu presque aussi mal qu'on pouvait s'y attendre. J'ai vacillé et tout de suite ouvert le robinet d'eau froide. L'évier s'est teinté de rouge avec des taches plus sombres sur les bords qui s'écoulaient vers le bas et que les remous venaient lécher puis emportaient vers le siphon. La douleur s'est accentuée. J'ai serré les dents, des larmes me brillaient des yeux. Levé la tête au plafond, je me retenais de hurler. Baissé le nez. Ma phalange, entraînée par le courant, avait glissé dans la petite grille d'acier qui filtrait les saletés et tournait et sautait comme si elle avait été douée d'une vie propre. Je l'ai observé un long moment, me concentrant sur ce lambeau de chair et d'os qui avait été une partie de moi, jusqu'à ce que la douleur devienne supportable et que mes nerfs, tendus comme des arcs, se relâchent enfin. Ce n'était rien comme je l'avais pensé. Hélène m'avait consacré les 20 dernières années de sa vie, ce qui en faisait les meilleures de la mienne. Ne pouvais-je lui faire présent d'un petit morceau de mon corps ? Voilà.
Ça, c'est
moi, quand j'ai lu ça, j'ai été, encore une fois, tellement touché.
Tu rappelles le titre, donc tu...
Oui, alors c'est Demain, c'est pour toujours. Hein, c'est de Pierre Barachan. C'est évidemment chez Z4 Éditions.
Okay.
Et le livre, alors là, c'est le passage peut-être le plus frappant. Ouais. Mais je veux dire, après, il y a... Tout est d'une qualité littéraire extraordinaire. Et je voulais juste citer, là je ne vais pas le lire, mais je voulais juste citer « De poussière et de vent » d'Émilie Panisset-Barachan.
Remarquable. Qui est un livre tout à fait remarquable.
Voilà.
Aussi, oui.
Voilà.
Mais puisqu'il a pu lire un petit extrait de
Très
Pierre,
bien. Ouais, mais...
j'aimerais bien moi lire comme petit
vous,
extrait. Prenez,
faites comme chez vous. Sur... Ouais, bah, bravo, bah, bravo. Bon, on arrive, on s'installe sur Radio Libertà 89.4. Et puis, allez.
On se croirait dans une radio libertaire.
C'est pas possible. Non, j'aimerais bien lire un passage d'un livre de Jean-Claude Péquer. Jean-Claude qui va sur ses 98 ans, qui est en pleine forme, en tout cas... qui a fait d'ailleurs la préface de Ce n'est rien, qui a fait aussi la préface d'un autre livre que j'ai publié, que tu connais peut-être, c'est Les Chants de la Commune. Donc, que j'ai publié, et il y a une préface de Jean-Claude. Et Jean-Claude, en fait, en 1944, il avait 18 ans, et ses parents étaient arrêtés pour amener dans les camps de concentration, bien entendu, dont ils ne sont jamais revenus, le jour de ses 18 ans. Et il a écrit un livre, Lamento, qui reprend, en fait, il a mis 50 ans avant de pouvoir commencer à écrire ses poèmes, justement, sur ses parents. Et 50 ans après, il a fait ce livre. Et je voudrais lire un des poèmes. C'est un livre qu'on a traduit en espéranto, et un ami en Italie a fait une traduction en italien et en anglais aussi. Donc c'est un des poèmes. Elle avait ce sourire que je n'ai plus revu, pour un enfant tout pâle et pour ses avenirs blonds. Elle avait ce sourire pour la fille bancale, pour l'élève assidu, pour l'élève ébloui, elle avait ce sourire, pour la vie, pour la vie. Elle avait ce sourire, même pour ses bourreaux, surtout pour ses bourreaux, surtout devant sa mort. Dans le wagon sinistre, elle avait ce sourire, et dans la chambre à gaz, elle avait ce sourire, comme un soleil rêvé, crispé devant la mort. Elle avait ce sourire que je n'ai plus revu. Hélas, si j'avais su, elle aura ce sourire, à jamais, à jamais. Et lui riait de tout, à la fille qui passe, à l'enfant blond souvent, à la vie qui s'en va. Son rire éclatait sur la lande, quand plus tard j'y suis revenu, il n'était plus là, il n'était plus rien. Son rire éclatait sur la plage, dans l'éblouissement des eaux qui s'envolaient. Son rire éclatait trop, pour un oui, pour un non. Il éclate toujours pour l'éternel jamais de sa vie étouffée dans un camp de là-bas, dans un camp de poussière, dans un camp de grisaille, dans un camp de la mort. Je n'aime plus entendre rire. Il était mon père, elle était ma mère. Je ne suis pas fier de la mort subite qui les a gommés. Je ne suis pas fier. Mais puis-je oublier ? Ils auraient pu vivre, Leur sourire et leur rire auraient pu se tourner vers d'autres enfants blonds. Pourrait-on oublier ce rire et ce sourire ? Il me reste que le brouillard. Et tout le livre est...
Ah ouais, c'est de cette force.
Il ne peut...
Voilà.
Ça, c'est Jean-Claude Péquer.
Ce que je trouve important là, dans ça, c'est que finalement, il y a quoi ? Il y a une dizaine de poèmes.
Oui.
Et ça vaut des 600 pages qu'on peut lire.
C'est tout le mystère de la poésie.
Oui, exactement.
Borges dit peut-être qu'un dieu m'a condamné au temps, cette longue illusion, tu prends toutes les productions philosophiques pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, il a résumé le problème. Hein.
Ouais.
Il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Il a bien visé.
Ouais. Hein.
Ce que j'ai oublié de dire à propos de Jean-Claude, c'est que Jean-Claude est quand même membre de l'Académie. Astrophysicien.
Oui, c'est un
des plus grands astrophysiciens français. C'est toujours d'ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un de très étonnant.
Pour revenir sur le sujet, si j'arrive aussi à lire, j'en sais rien, mais vous devez le faire de mémoire.
Si tu arrives à t'exprimer dans ton émission.
dans une boîte de nuit. Non, c'est André Ardelet publie donc le seuil du jardin et il va faire un service de presse. Il envoie à André Breton avec une dédicace. Breton va lui répondre tout de suite. Vous savez, moi je lis jamais de romans. Les romans s'empilent sur ma table et ça ne m'intéresse pas. Mais là, pof, je suis tombé sur le vôtre et c'est à peu près la seule chose que je peux lire. Bon, pour te dire que par rapport à tous les textes que Breton pouvait arriver, les choses romancées, il y a 150 pages. C'est un tout petit livre, le seuil du genre, hein.
Grand livre.
Oui, mais très grand livre.
Oui, ben voilà.
Est-ce que tu l'as lu, Eric ?
Non, je ne l'ai pas lu.
Tu devrais le lire.
Ah ben, je vais le lire.
Parce qu'après, tu écriras de choses intéressantes, peut-être, tu verras.
Je vais le recopier.
C'est l'histoire de la machine à vivre ses rêves. Hein.
Voilà.
Ah oui,
ça vous concerne tous les deux.
Ah, oui,
ça vous concerne tous les deux. On est en plein dedans, en plein dans le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que
le seuil du jardin.
Mais ce qui est très intéressant, c'est le mot seuil. C'est-à-dire, il se tient sur le seuil. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Aux lisières de.
Oui.
Voilà. Et quand il va trop loin, ça se termine bien mal.
Très mal. Très mal.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est tout le mystère, bien sûr, c'est magnifique. Le seuil du jardin.
Ouais.
Mais en te lisant, on va revenir là, avant de récapituler, on va revenir. C'est vrai que moi, en préparant cette émission, j'ai quand même préparé cette émission au moins 5 minutes, je tiens à te le dire.
Ah, la vache.
Je tiens à te le dire, Eric Tessier. Je suis sérieux. C'est vrai qu'on ne peut pas raconter ce livre, il ne se raconte pas.
Non.
Il passe pas par les critères normaux d'analyse. Si je remets à la psychanalyse, on va commencer par Lacan, on va jamais y arriver. Si j'arrive à la sociologie, on va jamais y arriver.
Ouais,
hein,
ouais.
Mais il passe par le langage.
Ouais, ouais. Ah ouais, 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 bien sûr.
Il passe par le langage.
Ouais.
Hein.
Bah ouais, je sais pas quoi dire.
Non, c'est ça.
Ça fait partie de ces livres simplement parfaits. On peut rien dire. Je veux dire, on lit ce livre, on se dit mais. C'est parfait.
Ah ouais.
C'est merveilleux.
Dans tout ce livre, il y a quand même une phrase à sauver, c'est la dernière.
Ouais.
Repu, Amicitia sombre dans une sieste réparatrice.
Ah oui, oui.
Voilà.
Ouais.
Tu aurais pas un petit peu te contenter de mettre ça en plein milieu d'une page.
T'aurais pu,
ça t'aurait beaucoup témoigné. T'es fatigant, ça aurait été moins fatigant, Daniel.
Tout à voilà. fait.
Ok, on va récapituler. Est-ce que c'est encore trouvable, Pauline Ultime, par exemple ?
Je sais pas. Je ne sais pas si c'est encore trouvable. Je crois, mais j'en suis pas sûr.
Tu veux dire en librairie
Ouais.
Tu ne te souviens pas où tu l'as placé ? Tu l'as pas
envie ? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas s'il est encore trouvable ou pas. Ça fait partie des choses dont il faut que je m'occupe. On en parlait en début d'émission, mais hors antenne, il y a des choses qui nous échappent des fois avec l'informatique. Toi comme moi, on s'est aperçu qu'on avait au moins un livre chacun qui a été republié, réédité. On n'est même pas au courant.
Ah non, parce que
on ne sait même pas qui l'a réédité.
Ce qui est très sympathique. D'ailleurs,
On ne sait pas moi.
Un jour, on est venu par téléphone ou par voie de mail. Et on dit tiens, il y a ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Bon, on va récapituler tout ça. On reste 5 minutes, on y va.
On y va. On en parle 2 minutes. Un des derniers livres qu'on a publié, est un livre absolument extraordinaire. Ah oui, c'est SOS pour la paix de Gérard Le Chat. Bon, je ne veux pas parler des livres qu'on publie, parce que sinon je devrais parler de tous les auteurs, parce que évidemment tous les livres sont admirables. Mais SOS pour la paix est écrit par Gérard Le Chat, qui est libertaire, bien entendu. C'est un livre très 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 profond, oui, qui explique en fin de compte le pourquoi des dernières guerres. C'est un livre
remarquable.
Remarquable, c'est le livre, je dirais, quasiment de toute une vie. Gérard a écrit d'autres livres aussi, bien entendu, mais celui-là, c'est vraiment le plus important, je pense, qu'il ait jamais fait. Ça s'appelle SOS pour la paix. Et c'est vraiment une explication des guerres qui est absolument brillante. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, moi, je suis entièrement d'accord. J'avoue que j'ai pas eu le temps de le finir, parce que d'abord, c'est une somme. Et alors, il y a une masse d'informations que moi, il y a plein de trucs que des choses peut-être des fois qu'on soupçonne, oui, mais là, cette fois-ci, là, il y a les faits, quoi.
Les objecteurs de conscience aussi, qu'il y a eu pendant les guerres, et ce qui est arrivé à ces objecteurs de conscience, qui étaient des gens souvent extrêmement brillants.
Oui. Et c'est un livre, je disais à Daniel que je vais terminer, puisque j'ai pas eu le temps avant l'émission, mais je vais le terminer, mais en plus je vais le relire, ça c'est clair, parce que il y a tellement de choses que heureusement qu'il existe des livres comme ça. C'est vraiment des livres de référence pour moi.
Donc on peut retrouver tout ça sur le site.
Sur le site, bien entendu, ou bien via un libraire.
Qu'est-ce qu'on tient
Il suffit de taper Z4, le chiffre 4, édition. Le site lui-même, c'est www.z4edition.fr. Voilà. Mais en tapant Z4 édition, on tombe a priori tout simplement sur le site.
Très facilement. Voilà.
André Ardelais.
Oui, alors j'ai noté.
Le Seuil du Jardin, tu ne reviendras sur Radio Libertaire qu'une fois que tu l'auras lu.
Et le Parc des Archers,
magnifique.
Et le Parc des Archers, qui est remarquable.
Lire, ce n'est rien. Ça date de quand, ce n'est rien, tiens?
Ce n'est rien, de toute manière, c'est un livre qui date de... Je ne sais pas.
Ah oui,
parce que c'est un livre
oui,
qui...
Oui, non, mais attention, ce n'est rien, 24 avril 2015, 2012, après. C'est écrit à revers.
Oui, non, mais
il est commencé en 2015, fini en 2012.
Tout à fait, mais en fait, il n'est pas terminé. Et cette édition-là, donc, c'était 2019. Mais comme le temps, en fait, on ne sait pas où il est, le temps, il est un peu inversé. Si, il existe, mais il n'est pas certain qu'il existe. Ce livre, en fait, n'existe pas. C'est un non-livre, d'abord. Et c'est un livre qui ne sera jamais terminé. Comme je disais tout à l'heure, tous les gens qui veulent participer, qui veulent rentrer dans le livre, c'est avec grand plaisir. Et que ce livre continue d'être... Voilà, avec d'autres gens, Il est signé Daniel Zig, mais en fait, tout le monde peut écrire dedans, et à l'extrême, j'enlèverai mon nom.
C'est le livre de Lichtenberg, comme le couteau, sans lame ni manche.
Voilà,
en gros. C'est un livre. Et puis malgré tout, si vous n'avez pas quoi faire dans votre vie, ben, lire Éric Tessier, Amicitia, de lire, et voilà, ça échappe à toute règle.
Oui, j'espère, d'accord, en tout cas.
Et on peut le trouver chez Publico actuellement.
Oui, on peut,
Voilà. Et on va remercier Monique quand même.
Oui.
Voilà.
Merci,
après, parce qu'elle doit avoir une occupation sainte au sortir de Radio Liberté 89.4. Monique. Ah, bye bye, à bientôt sur Onde de Choc, Radio Libertaire au 01. Hein?
droit au grand carnaval. Au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles. C'est tellement bidonnant que ça en devient consternant.
fait rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du camp, dira-t-on, rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne, c'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau souris, chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effroter. Chat, oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh merci parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier, pour écrire chat c'est pas gagné. Mais pour chaparder s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot de mon char à nous dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Chat fait tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue au chat. Oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Chat, miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, versa. Versa, oui, versa.
Miaou.
Société de supermation, un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui. Ma femme me dit, j'ai décidé d'être corvée de supermarché. Prends ta fille et pour le caddie, 1 euro et ton
paletot. Me v'là pousser l'engin, franchement pas très rassuré. Quand j'ai buté contre le malin, que t'es bloqué dans le tourniquet. L'agent de la sécurité a failli me mettre un pain. Ma fille s'est mise à chialer, j'ai dit tiens ça commence bien. Je voulais acheter un CD, j'étais dans le rayon poubelle. J'ai pris un truc à paliguer, signé par un grand label. J'étais pas venu pour des conneries, j'avais une liste à respecter. D'abord un gros pain pas trop cuit, une charlotte pour dimanche midi. Le pain c'était un élastique, Charlotte m'était antipathique. J'ai remplacé par des cracottes, qui auprès de Marco ont la cote. Il a fallu que j'ouvre le paquet, pour la faire un peu patienter devant la queue de la fausse boucherie. J'en ai oublié mon rôti, que j'aurais bien pu remplacer par les steaks hachés emballés, s'il n'était pas périmé, ou encore moins contaminé. Conciété de supermation, un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui. Enfin pour trouver un poireau, je tombe dans les petites culottes. L'idée qu'on me prenne pour un salaud, me plonge le nez dans les cracottes. Rigolez pas, même si c'est con, mais pour dénicher une frisée, je retombe dans le même rayon qu'à l'instant je viens de traverser. Intersection stop sur un bac de Godio en super promo, pour une achetée à l'autre gratos, comme pour un ciseau ou une claque. Quant au message subliminal m'incitant au plaisir anal, disait vas-y, vas-y achète, car aujourd'hui c'est jour de fête. Du coup, l'essence est putain de grolle, direction l'étal des alcools. Là, j'ai pris mon pack de 26, plutôt 30 avec les gratis. Puis la remontée vers la caisse, ma fille m'a dit pipi papa. Et en montrant du doigt ses fesses, a même fini par dire caca. Attends donc un petit peu Margot, que je planque cette misère de chariot, qui m'aura donné un coup de chaud, et surtout bouffé un euro. Devant le pylône au grand poster, apparemment le fils et le père, elle n'a pu retenir ses besoins. J'ai grondé, on n'est pas des chiens. Un esprit de compétition. Il s'agit de plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit, pour que l'honneur soit sauf, le croupion sera pour lui.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Alors, pour les habitués de notre site ou de l'agenda de Radio Libertaire, vous avez peut-être remarqué que Trou Noir n'avait pas mis son programme à l'avance cette semaine. Eh bien, c'est pour une raison très très simple. Nous étions ce week-end à Marseille pour un week-end organisé par la Fédération anarchiste sur le thème de l'antinucléaire. Il y avait des conférences, débats absolument passionnants. Nous y étions pour Radio Libertaire et puis pour Trou Noir aussi un petit peu bien sûr, mais toujours est-il que Radio Libertaire a enregistré les débats, qu'ils seront très 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 bientôt tous disponibles sur le site de Radio Libertaire. Pour les trouver, vous cliquez sur l'onglet événements spéciaux et dès que ce sera en ligne, vous verrez avec l'affiche Week-end Antinuc à Marseille, vous cliquez de nouveau là-dessus et vous aurez accès aux programmes, aux enregistrements, etc. Mais alors là, nous rentrons tout juste de Marseille par le train et dans le train, j'ai fait un montage pour que vous puissiez écouter dans Trou Noir aujourd'hui l'une de ces conférences. Je l'ai un petit peu coupée par des morceaux de musique. Et cette conférence que vous allez, conférence débat que vous allez écouter, c'est celle que nous ont donné Antoine Calandra et Jean Revest, qui tous les deux sont membres de la coordination antinucléaire du Sud-Est. Voilà, c'était leur région. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue à ce dernier jour de ce week-end antinucléaire organisé par la Fédération anarchiste. Alors je vais peut-être un peu me répéter pour ceux qui étaient là hier, mais bon, voilà, ça vous fera pas de mal. Alors Fédération anarchiste, c'est une fédération de groupes anarchistes francophones. Chaque groupe milite à sa façon, à son autonomie, mais les campagnes, ce sont des instants politiques qu'on a tous décidé ensemble en congrès. Et cette année, enfin, au congrès précédent, on a décidé cette année de joindre nos efforts pour parler de la lutte antinucléaire. Et donc, ce week-end est organisé dans ce sens. Alors, aujourd'hui, il y a essentiellement quatre groupes de l'AFA qui sont représentés. Le groupe Macno de Saint-Étienne, le groupe Gaston Leval de région parisienne et deux groupes de Marseille, le groupe Y et le groupe Germinal. Bien sûr, on est disponible si vous avez des questions par rapport à l'anarchisme, etc. Mais on va parler aujourd'hui essentiellement de nucléaire et je vais passer le micro à un représentant du lieu, l'ADAR, qui nous invite pour ce week-end et qui va vous expliquer le projet actuel.
Moi, je ne sais pas si je suis vraiment représentant, mais toujours est-il que je suis un usager du lieu. Donc la DAR, Centre Social Autogéré, anciennement connu comme la DAR LAMIFA, donc un café associatif. Depuis peu, là, on a lancé une campagne de dons pour financer le rachat du local, pour devenir propriétaire du local. Voilà, c'est un lieu qui accueille des soirées, mais aussi des activités en journée, surtout dans une dimension sociale, toujours à prix libre. C'est un lieu qui est ouvert sur le quartier.